le journal de Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Dernier jour sans QR code pour aller au cinéma, au musée ou dans un parc d'attractions. Le pass sanitaire sera obligatoire dès demain dans les lieux de loisirs et de culture. Nous irons à la mer de sable d'Ermenonville dès le début de ce journal. Le pass dans les cafés et restaurants et dans certains centres commerciaux, ce sera à partir du mois d'août. Objectif de la loi discutée à partir de demain à l'Assemblée. Cela suffira-t-il pour contenir la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19? Le gouvernement l'espère, ainsi que le consensus autour de son texte de loi. On en parle à 8h20, Karine.
Oui, on en parlera avec Damien Abad, qui est l'invité du grand entretien ce matin. Il est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il est aussi député de l'Ain. L'opposition de droite votera-t-elle l'extension du pass sanitaire? Est-elle prête à soutenir le gouvernement dans ses nouvelles restrictions? Le texte arrive aujourd'hui en commission au Palais Bourbon. Rendez-vous tout à l'heure à 8h20 avec vos questions, vos réactions comme toujours au 01 45 24 7000.
Journée de deuil national en Belgique, 6 jours après les inondations qui ont notamment ravagé la région de Liège. 31 personnes sont mortes, une centaine sont toujours portées disparues. Nous irons à Bruxelles. Et puis un rêve de milliardaire qui devient réalité. L'ancien patron d'Amazon, Jeff Bezos, doit s'envoler aujourd'hui pour l'espace, à bord de la fusée Blue Origin, avec un Néerlandais de 18 ans qui a gagné sa place aux enchères.
France Inter.
Le pass sanitaire pour aller au musée, au cinéma ou encore à la piscine, c'est à partir de demain. Le décret est paru ce matin au journal officiel. La jauge, à partir de laquelle le contrôle est obligatoire, passe de 1000 personnes à 50 personnes. Hormis quelques très petites salles, tous les lieux de loisirs et de culture s'apprêtent donc à scanner les QR codes, attestant que vous êtes vacciné ou testé négatif au Covid-19. À la mer de sable, à Ermenonville dans l'Oise, un parc d'attractions très prisé des familles. On est prêt, c'est un reportage de Noémie Bonin.
Pour pouvoir s'époumoner autant qu'on le souhaite sur les attractions, il faudra d'abord passer un troisième contrôle, en plus de la fouille des sacs et de la billetterie.
On va mettre un barnum de 4 mètres par 4, 3 agents de sécurité avec les fameux téléphones qui scannent les passes sanitaires. On devrait perdre entre 35 et 45 secondes par visiteur.
Le directeur sécurité du parc, Bruno Le Maire, le rappelle, les adultes devront montrer pour entrer la preuve d'une vaccination complète, d'un test récent ou d'un certificat de rétablissement du Covid. Côté visiteurs, certains sont prêts.
C'est plus que normal si on veut retrouver une vie normale.
Quand d'autres sont bien plus sceptiques.
On vient avant la mise en place du pass sanitaire obligatoire. Parce qu'après, on ne sait pas si on se fera vacciner.
Comme Sophie, beaucoup sont effectivement venus profiter des attractions avant cette nouvelle mesure. Le directeur de la mer de Sable évoque même un record battu dimanche dernier. Antoine Lacarrière précise aussi les dépenses supplémentaires que ce pass sanitaire nécessite.
On va embaucher à peu près entre 3 et 4 agents de sécurité, ça dépendra de la fréquentation, et 25 000 euros de coûts juste pour la saison d'été. On est tout à fait pour le pass sanitaire. Ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi le faire aussi rapidement et pourquoi le faire maintenant.
Les employés du parc devront aussi montrer un pass sanitaire pour travailler, mais ils ont jusqu'à la fin du mois d'août pour s'organiser.
Et pour les autres lieux accueillant du public, notamment les cafés et les restaurants, le pass sanitaire, ce sera à partir du mois d'août. Pas de date plus précise pour le moment. En cas de manquement, les restaurateurs encourront des amendes, mais plus de peine d'emprisonnement. Le gouvernement se veut rassurant. Il y aura une période de rodage avant que les sanctions ne tombent, mais il alerte sur l'absolue nécessité de ces mesures face à l'accélération de la circulation du virus. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres hier soir.
Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Nous devons tout mettre en œuvre dès maintenant pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice. Nous partons de bas, mais cette vague peut monter très vite et elle peut monter très haut. Le taux d'incidence poursuit son explosion dans notre pays. Il atteint désormais 86 pour 100 000 habitants au niveau national, selon les chiffres corrigés du jour férié du 14 juillet, soit une augmentation de près de 125% en une semaine. Une hausse de ce type, je le dis, aussi forte, aussi soudaine, nous n'en avions jamais connu depuis le début de l'épidémie dans notre pays.
Gabriel Attal qui a aussi annoncé vouloir maintenir le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux. Problème, le Conseil d'État estime que l'accès aux biens de première nécessité doit être garanti à tous, avec ou sans passe. Il a donc retoqué la mesure. Le gouvernement assure qu'il en tiendra compte dans le projet de loi, dont l'examen commence demain à l'Assemblée. Il promet des ajustements. Mais du côté des professionnels des centres commerciaux, on n'y comprend plus rien. Les explications de Claire Chaudière.
premier ajustement, si dans un bassin de vie donné, les habitants n'ont pas accès à des biens de première nécessité, notamment alimentaires, en dehors de leur centre commercial, eh bien la mesure ne s'appliquera pas, précise le gouvernement, qui entend la répondre aux inquiétudes émises par le Conseil d'État. Sauf que tout cela se décide dans le flou le plus total, regrette Gontran Turing du Conseil national des centres commerciaux.
Je pense que le gouvernement était gêné, et donc Gabriel Attal nous a servi un genre de gloubi-boulga. Je dois dire qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour comprendre effectivement ce qui va se passer pour les centres commerciaux. On a compris qu'il y aurait une période de rodage, qu'on serait accompagné, qu'il gardait un seuil, mais qu'il n'était pas défini.
Car ce seuil de 20 000 mètres carrés au-dessus duquel des contrôles de passe sanitaire devaient être obligatoires sera lui aussi rediscuté, sans compter qu'élus locaux et représentants de l'État sont également dans la boucle.
Il nous expliquait que ça serait sans doute laissé à la discrétion des préfets. Donc effectivement, une situation très compliquée qui s'annonce si elle se confirme. Peut-être d'ailleurs tellement compliquée que finalement elle sera inapplicable.
Patience, les décrets seront bientôt là, rebondit l'exécutif. Pas de quoi rassurer un secteur qui appelait hier soir à beaucoup plus de clarté et de bon sens.
On connaît désormais l'effet de ces annonces sur la popularité du chef de l'État. Emmanuel Macron perd 2 points, mais ne dégringole pas dans l'opinion.
Oui, c'est l'enseignement de notre dernier baromètre mensuel Odoxa Dentsu Consulting pour la presse régionale et France Inter. 8 jours après avoir prôné la fermeté à la télévision, Emmanuel Macron perd 2 points. En juillet, il passe sous la barre des 40%. 39% des Français estiment qu'il est un bon président contre 61% qui estiment l'inverse. Pour Jean Castex, c'est 38% d'opinion positive, en légère baisse également. Mais la baisse reste mesurée, avec un constat dans ce sondage, Yael Gauze, Emmanuel Macron n'est plus plombé par sa gestion de la crise sanitaire.
Confiné, déconfiné, redéconfiné, jusqu'en mai dernier, les stratèges du président ne cachaient pas leur pessimisme. Le surplace sanitaire d'Emmanuel Macron et le risque d'être englué jusqu'en 2022 dans le Covid et ses variants. Mais les doses de vaccins sont passées par là et 2021 marque un tournant par rapport à 2020, constate Gaël Slimane, le président de l'Institut Odoxa.
Il y a eu un sentiment, notamment il y a de ça à peu près un an, qu'il y avait même eu un mensonge sur les masques. Et là, les choses se sont singulièrement améliorées depuis 2 mois. 42% des Français tirent un bilan positif. 6 points de plus que ce qu'ils disaient au printemps dernier. La gestion de la crise sanitaire est en train de devenir un atout pour les semaines et les mois à venir.
Cette éclaircie dans l'opinion ne doit pas masquer les traits négatifs qui persistent. Emmanuel Macron, pas assez proche des gens pour 2/3 des personnes interrogées, pas assez compétent et toujours président des riches, observe Gaël Slimane, ce sparadrap qui résiste au quoi qu'il en coûte.
71% des Français estiment que cette épithète lui convient bien. Ça n'a guère bougé dans le temps depuis ces 3 ou 4 dernières années. Sans doute que sa volonté de reparler de la réforme des retraites explique largement cette perception négative.
Une réforme renvoyée à plus tard, mais qui crispe dans l'opinion, y compris dans l'électorat de droite, chez qui Emmanuel Macron voudrait pourtant cranter, hors Covid, l'image du réformateur.
Un sondage réalisé les 15 et 16 juillet par Internet sur un échantillon de 1005 Français représentatifs de la population française. Et puis face à une autre urgence, l'urgence climatique, le Sénat et l'Assemblée nationale adoptent cet après-midi la loi climat, inspirée des travaux de la Convention citoyenne. Parmi les mesures phares, la suppression des lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30 et l'interdiction à partir de 2025 de louer des logements qualifiés de passoires thermiques. Les ONG regrettent une loi qui manque d'ambition.
Journée de deuil national en Belgique.
Oui, 6 jours après les inondations qui ont dévasté la Belgique, notamment la province de Liège. Le bilan encore provisoire fait état de 31 morts et l'on reste sans nouvelles d'une centaine de personnes. À Bruxelles, la correspondance d'Angélique Point.
Les disparus, ce sont les personnes dont on n'a pas de nouvelles, mais elles peuvent avoir quitté leur commune avant ou pendant les inondations, ne plus avoir de portable, expliquent les autorités. Elles sont invitées à se manifester. Le directeur national de la cellule de crise a aussi lancé un appel de prudence à tous ceux qui profitent de la décrue pour retourner dans leur logement envahi par les eaux.
Méfiez-vous des affaissements de terrain, des murs et des sols instables, des trous, des morceaux de verre et tout autre déchet dangereux.
Bart Reimekers évoque aussi l'élan de solidarité partout en Belgique et cette catastrophe qui, dit-il, s'ajoute à celle du Covid. Mais derrière ses lunettes, la vue soudain se brouille. Submergé par l'émotion, le directeur du centre de crise peine à finir son propos.
Tout le monde espérait vivre enfin un été plus calme, mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Les nombreux témoignages de solidarité spontanée, d'entraide et de soutien nous donnent incontestablement le courage de continuer. L'union fait la force. Merci.
La salle de presse se fige. Aujourd'hui à midi, les sirènes vont retentir, les métros s'arrêter. Les Belges sont invités à respecter une minute de silence en hommage à leurs victimes. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
L'onde de choc après les révélations sur l'affaire Pegasus. Depuis dimanche, France Inter vous dévoile cette enquête menée par un consortium international de journalistes, dont la cellule Investigation de Radio France. Au Maroc, accusé d'avoir utilisé ce logiciel espion pour surveiller les téléphones portables de journalistes et d'opposants politiques, les autorités démentent catégoriquement. L'affaire était simplement mentionnée dans les journaux télévisés du soir. À Rabat, Christian Chéneau.
Au sommaire du journal du soir de la chaîne d'information continue Mehdi 1, les révélations sur l'utilisation par le pouvoir marocain du logiciel Pegasus sont à peine évoquées. Le titre à la une, c'est l'envoi d'une aide médicale d'urgence du Maroc à la Tunisie débordée par la pandémie de Covid. Mehdi 1 reprend simplement les termes du communiqué officiel des autorités qui démentent avoir utilisé le logiciel d'espionnage israélien. Aïda Alami, correspondante du New York Times à Rabat, n'est pas surprise par l'implication du Maroc dans le réseau Pegasus.
Ce n'est pas la première fois que le Maroc utilise ce genre d'outils de surveillance contre ses citoyens et contre des journalistes et des dissidents, etc. Et puis de toute façon, c'est un pays où il y a une culture de la surveillance de toutes les voies critiques. De toute façon, quand on est marocain ou marocaine, on grandit avec l'idée qu'on est sous surveillance constante, donc qu'on soit surveillé dans la rue, qu'on soit surveillé dans nos téléphones, il n'y a pas une grande différence en fait.
Il faut dire que les Marocains ont la tête ailleurs, tout le monde ici s'affaire dans les familles pour préparer l'Aïd, la fête du sacrifice qui commence dès ce soir. À Rabat, Christian Chéneau, France Inter.
À Kaboul, plusieurs roquettes ont explosé ce matin à proximité du palais présidentiel. Le président afghan a dû interrompre les prières retransmises en direct à l'occasion de la fête de l'Aïd. A priori, il n'y aurait pas de victimes. Un nouveau président au Pérou, le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo, remporte l'élection présidentielle. Proclamé vainqueur un mois et demi après le scrutin, sa concurrente, l'ultralibérale Keiko Fujimori, reconnaît sa défaite. Retour en France avec une traque qui continue. Il est armé et dangereux. L'homme soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans dimanche au plan de la Tour près de Saint-Tropez. Il est activement recherché. Le préfet des Alpes-Maritimes a appelé cet homme de 33 ans à se rendre. 200 gendarmes et membres des forces d'élite sillonnent une zone escarpée près du village de Gréolières. Et puis des centres de loisirs un peu particuliers où ce sont des policiers qui encadrent les jeunes. Ce dispositif méconnu du grand public s'adresse en priorité aux enfants et adolescents venus de quartiers que l'on dit difficiles. Il en existe 29 dans toute la France. Ariane Grissel est allée à Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise.
Au premier coup d'œil, rien ne distingue ces jeunes des nombreux autres présents en cette période d'été sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Mais à y regarder de plus près, les encadrants portent des vêtements ornés du logo de la police nationale.
Ils savent les jeunes qu'on rentre dans une structure police.
Le brigadier Didier Clair, ancien de police secours, est le directeur du centre de loisirs jeunes du Val d'Oise.
Ces fonctionnaires qui sont détachés, ils peuvent les retrouver après sur le terrain. C'est facilitateur. Ça leur montre aussi que la police, elle est là aussi pour eux.
Ils sont 130 jeunes de 10 à 17 ans inscrits au centre de loisirs, tous volontaires.
Bonjour, je m'appelle Amir, 16 ans. Alors c'était mon voisin. Il m'a raconté le téléski, la crobranche, ça m'avait très intéressé, donc je suis venu.
Mais pour prétendre à ces moments ludiques, il faut en passer par des ateliers de prévention.
Sur l'alcool, comme c'est dangereux, combien de verres on a le droit.
Par exemple, on avait fait l'atelier sur la trottinette électrique, les amendes, enfin on a vu ce qu'il fallait faire pour avoir une trottinette électrique.
Les fonctionnaires ont les diplômes nécessaires pour travailler avec les enfants et adolescents, mais ils restent avant tout policiers, Didier Clair.
Sur Villebel, moi ça m'a permis déjà de faire deux générations où ceux qui étaient un petit peu plus ou moins dans le bon chemin, s'en sont sortis. C'est gratifiant.
Sur la trentaine de centres de ce genre en France, 20 accueillent les jeunes toute l'année et accompagnent les plus âgés pour passer différents diplômes, tels que celui d'animateur, le BAFA, ou un certificat de formation au premier secours.
Ariane Grissel. Allez, un rêve de milliardaire pour finir. L'ancien patron d'Amazon, Jeff Bezos, doit s'envoler aujourd'hui pour l'espace à bord de la fusée Blue Origin, en développement depuis l'année 2000. Jeff Bezos emmène son frère, une pionnière de l'aviation âgée de 82 ans et un jeune néerlandais de 18 ans, Olivier Demon. L'adolescent a gagné sa place aux enchères pour devenir le plus jeune astronaute de l'histoire. À New York, Loïc Loury.
Oliver Demon aurait dû faire partie du second voyage du vaisseau New Shepard. Le sort en a finalement décidé autrement. Le siège qu'il occupera, en effet, avait été mis aux enchères, remporté par un anonyme pour 28 millions de dollars. Un empêchement, sans plus de précision, a toutefois forcé celui-ci à à repousser son décollage. Damon, second de cette vente, fera donc partie de l'aventure, fasciné par la Lune et les fusées, dit-il depuis ses 4 ans. Le jeune homme a exprimé sa joie dans un message vidéo très calibré. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Je vais devenir le plus jeune astronaute de l'histoire. J'ai 18 ans. Je suis super excité à l'idée d'expérimenter la pesanteur, de voir la Terre depuis là-haut. Merci beaucoup à Blue Origin de rendre cela possible. Merci également à son père, à la tête d'un fonds d'investissement privé, car si la famille assure avoir déboursé beaucoup moins que le vainqueur des enchères, cette place à bord pour un voyage d'à peine 10 minutes n'a pas dû être donnée. Oliver Damon, bac en poche depuis l'an dernier, entamera des études de physique à la rentrée. Il avait pris une année sabbatique consacrée notamment à des cours de pilotage. Mais aujourd'hui, c'est bien en touriste qu'il décollera pour l'espace à bord de New Shepard. New York, Loïc Loury, France Inter.
Voilà, et l'équipage va passer quelques minutes à 106 km d'altitude. On les regardera d'en bas, Karine.
Si vous voulez, Corinne. Merci, je vous dis à demain. La météo.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie Fromentin, le soleil, donne-le-la.
Et oui, car le ciel se rythme en soleil majeur, mais ponctue sa partition de quelques bémols nuageux. Au nord de la Seine, dans les vallées du centre-est et sur le bassin aquitain, le début de matinée est parfois agrémenté de nuages bas, mais le soleil garde le rythme. Toutefois, les plages de l'Aquitaine conserveront une tonalité plus nuageuse cet après-midi. Vers le nord-ouest, quelques cumulus entament une mélopée de cumulus, tandis qu'en Occitanie, c'est plutôt une mélodie de nuages élevés qui va envahir le ciel, mais sans dissonance démesurée. Juste une légère désarmonie en mode mineur qui va se manifester aussi en montagne cet après-midi, avec quelques notes pluvieuses sur les Alpes, voire des points d'orgue orageux sur les Pyrénées. Mais dans l'ensemble, le soleil donne.
Allez, on file la métaphore. Le mercure suit le rythme.
C'est presque l'accord parfait. La chaleur est estivale, mais une petite bise adoucit l'atmosphère. Les températures abordent la journée en cadence classique. 24 à 31 sur la moitié nord, jusqu'à 32 localement en Bretagne. 28 à 33 au sud. Léger point d'orgue dans l'intérieur des terres avec 35 degrés. Il fera 25 à Biarritz, mais 27 à Lille, Metz et Cherbourg. 29 à Reims comme à Ajaccio, 30 degrés à Paris comme à Verras en Ardèche ou à Saint-Tropez, 32 degrés à Tours jusqu'à 35 à Nîmes.
On vous retrouve juste après le journal de 9h, Stéphanie Fromentin.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, sur France Inter.
Géopolitique avec vous cet été, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous proposez une géopolitique du logiciel d'espionnage Pegasus.
Oui, pour une raison très simple, hein, ce logiciel israélien qui infecte téléphones et communications électroniques est vendu à des États. Sa propagation dessine donc une carte du monde qu'il est utile de se demander quelles sont ses spécificités. Écartons d'emblée l'idée que cette technologie ne serait vendue qu'à des dictatures ou des régimes autoritaires. Un des principaux clients révélés par le travail d'enquête des médias du monde entier, dont Radio France. Et le Mexique, qui est une vraie démocratie. On y retrouve aussi l'Inde de Narendra Modi ou la Hongrie, deux exemples indéniables de démocratie malgré leur tendance illibérale plus ou moins accentuée. Donc le point commun des États clients de Pegasus n'est pas le type de régime.
Donc quel est leur point commun dans ce cas ?
Eh bien leur point commun, c'est Israël. Tous sont plus ou moins ouvertement des alliés de l'État hébreu. C'est le cas de certaines monarchies du Golfe, Émirats Arabes Unis et Bahreïn, mais aussi du Maroc, qui ont tout récemment reconnu diplomatiquement Israël. C'est aussi le cas du Mexique, qui au moins depuis 2008 achète des armes israéliennes, du Rwanda, où Israël a une ambassade depuis 2019, et donc de l'Inde. Narendra Modi a été le premier ministre indien à se rendre en Israël en juillet 2017. Le cas de l'Arabie Saoudite est un peu particulier. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, dit MBS, n'a jamais caché son admiration pour la réussite économique de son voisin israélien, ni sa volonté à terme d'établir des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Seulement voilà, MBS n'a pas encore les mains libres. Tant que son vieux père Salman, vous savez, de 85 ans, oui, est encore roi, eh bien il faudra patienter, ce qui n'empêche pas visiblement la coopération et l'acquisition du meilleur de la technologie israélienne en matière d'espionnage.
Peut-on, dans ces conditions, parler de soft power israélien ?
Eh bien, la question se pose effectivement, mais prête à confusion, parce que le soft power, ce sont des outils d'influence non militaire pour la France, les écoles, instituts et alliances françaises, ou les visas accordés à des étudiants étrangers. étranger Pegasus est un pur produit du complexe militaro-industriel israélien. En cela, Israël n'a rien de particulièrement original. Tous les complexes militaro-industriels du monde mêlent entreprises privées et commandes publiques et servent les intérêts de leur pays d'origine à l'exportation, tous avec des spécialités, les navires de guerre et les rafales pour la France, les avions de combat et les systèmes antiaériens pour les Russes, et donc les systèmes de surveillance pour Israël, qui succède en cela à la Grande-Bretagne en pointe dans ce domaine dans les années 70 et 80.
Donc ce que vous nous dites, c'est rien de nouveau dans cette spécialisation israélienne dans les outils de surveillance?
Non, dans le fait de proposer ces services à l'exportation non plus, dans le fait de mêler renseignements et diplomatie, encore une fois non. Par contre, l'étendue des possibilités d'espionnage offertes à des États par ces logiciels espions est proprement stupéfiante et pour tout dire assez terrifiante.
Merci Anthony Bellanger. À suivre, le grand entretien de la matinale.